Chapitre 66.
Bonne journée, Laura. Tu sais où me trouver si tu as besoin.
Notre discussion à peine achevée, Sébastien m'embrasse et saute dans sa fourgonnette. Comment diable fait-il pour redémarrer en trombe alors qu'il n'est même pas complètement assis et que sa portière est encore ouverte? Je suis bien contente de savoir que sa petite amie n'a pas pris les ragots d'Olga au sérieux. D'ailleurs, Sébastien est allé lui demander des comptes. Entre sa réaction et la mienne, la pauvre chouchoune était tellement mal qu'elle a pris 8 jours, histoire de se remettre de « cette vague d'ondes négatives » et de se faire oublier. Aucune raison de s'inquiéter ou de la plaindre pour autant, car son petit copain tout neuf, le sémillant Titouan du service technique, délicieusement surnommé par ses collègues « la mitraillette », a posé la même semaine. Ça fait rêver. Pas de culotte et la mitraillette sont partis en vacances ensemble. On dirait le début d'une devinette. Pas de culotte et la mitraillette sont sur un bateau. Tout le textile est tombé à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Rien. Et surtout, pas la décence ou le romantisme. Cachez-vous les yeux, les dauphins. Toi aussi, le crabe. Sébastien m'a d'autre part confié que sa voisine Alice allait mieux. Elle n'a plus le comportement d'une bête sauvage et commence à reprendre une vie sociale. Excellente nouvelle que je vais de ce pas aller annoncer à Mélanie. Pourtant, alors que j'entre dans notre bâtiment, mon instinct et mes capteurs sentent immédiatement que quelque chose cloche. La préposée à l'accueil me regarde avec des yeux où se lit l'incrédulité, agrémentée d'un soupçon de détresse. Tout va bien ? Elle me désigne le service d'un mouvement du menton. Je m'y dirige. L'ambiance est lourde, très inhabituelle. Quelque chose de feutré, voire d'étouffé. Au comptoir de réception des administrés, Françoise est en conversation avec une femme, mais à voix basse, comme si elle craignait de déranger. Mes collègues sont tout affairés, cependant il est évident qu'elles ne se comportent pas de la même façon que d'ordinaire. Tout semble figé, écrasé sous une charge invisible. Elles fixent leur dossier, la tête rentrée dans les épaules, sans oser lever le nez. Même Mélanie, qui pourtant ne s'aplatit devant rien. Je passe derrière les comptoirs. « Salut les filles !»« Je débarque en pleine prise d'otage ou quoi ?» Lucie me fait signe de baisser d'un ton. J'entends des voix venant des pièces à l'arrière. 4 personnes débarquent dans notre zone. Dutrille se pavane en compagnie de 3 individus qui prennent des notes. Il est visiblement fier de leur faire la visite. Il désigne et commente les plafonds, les fenêtres. Ce crétin plastronne avec des architectes.
Il faudra repenser l'espace, reconstituer les cloisons afin d'optimiser les surfaces au sol.
Les 3 types s'empressent d'écrire. Dutrille s'exprime comme si nous n'étions pas là, gonflé de sa propre importance, sans se soucier de ce que nous pouvons entendre et en conclure. Nous sommes quantité négligeable. Il se promène entre les bureaux avec une désinvolture qui frise l'insulte. Il doit sans doute considérer mes collègues au même titre que les meubles, qu'il faudra déménager ou mettre au rebut. Il vient de me remarquer. Il s'en fiche, me toise et continue son exposé comme si je n'existais pas. Je grogne. Vous pourriez avoir la politesse de faire ça quand nous ne sommes pas là.
Pardon ?
Je disais que vous auriez pu venir en dehors de nos horaires de travail.
Pourquoi devrais-je me cacher ? Je croyais que vous étiez du genre à aimer les situations claires, mademoiselle Laforie.
J'aime aussi les situations honnêtes.
Que voulez-vous dire? Vous avez encore un problème? Cette fois, je vous rassure, j'assume avec bonheur la décision dont vous avez visiblement déjà connaissance.
Personne ne bronche. Amour a juste passé la tête. Il n'emmène pas large non plus. Mais je n'ai pas l'intention de me taire. J'interpelle notre fossoyeur.
Puisque toutes celles et tous ceux que votre projet concerne sont réunis, expliquez-nous pourquoi vous voulez nous déloger et nous affaiblir.
Affaiblir. Le terme vous correspond tout à fait. Bien que je n'ai pas à me justifier auprès de vous, je vais tout de même vous répondre.
Les architectes commencent à se sentir mal à l'aise. La conversation prend un autre tour. Dutrille est en situation de force et il ne se gêne pas pour le faire sentir.
Le monde change, mademoiselle Laforie. Il faut savoir évoluer. Je respecte votre travail, mais il a besoin d'être adapté.
Vous ne respectez rien du tout. Tout ce que vous voulez, c'est le bâtiment.
Vous devriez surveiller vos propos. Ceux qui resteront n'ont pas encore été choisis.
J'ignore la menace et avance vers lui. Il ne me fait pas peur. Il le devine, mais se redresse pour garder contenance.
Vous pouvez m'en vouloir ou me cracher votre haine, ça ne changera rien.
Croyez-vous ?
Vous avez peur du monde qui avance, mademoiselle. Vous avez peur du futur.
Je commence à bouillir. Nous n'avons pas peur du futur, monsieur Dutrill. Nous ne voulons simplement pas de celui que des gens comme vous nous préparent. C'est très différent. Il recule d'un pas, j'avance d'autant.
Vous allez encore brandir votre idéalisme,
déclare-t-il d'une voix forte, mais déjà moins assurée.
Vos principes ! Vous êtes les gentils et nous les méchants, c'est ça ?
Nous croyons en ce que nous faisons pour d'autres. Vous ne défendez que vos propres intérêts.
Suis-je obligée d'en débattre avec vous ? Votre avis a-t-il de l'importance ?
Il n'argumente plus, il se défend.
Je vais vous donner l'occasion de jouer le rôle que vous préférez, mademoiselle Laforie, celui de victime. Vous finirez par comprendre que ce ne sont pas les gentils qui font avancer le monde. Il faut des méchants comme moi pour que les situations évoluent enfin.
Je monte en pression. Avez-vous une idée de l'énergie que ça demande d'être gentil dans le monde de merde que vous nous faites ? Savez-vous ce qu'il faut de foi dans la vie pour continuer à y croire quand on voit des petits foireux comme vous s'en sortir en toute impunité ?
Comment osez-vous ?
Il est tout rouge. Il recule encore mais reste à portée de tir. À l'attaque. Vous vous croyez fort ? Vous vous croyez plus malin que nous ? Parce que beaucoup n'osent rien vous dire et que vous vous permettez tout ? Mais faites attention, on ne va pas forcément se laisser faire. Une hyène peut se faire écraser par un troupeau d'herbivores qui charge.
Vous venez de perdre votre emploi. Comptez sur moi pour vous régler votre compte.
Je suis tentée de lui sauter dessus. Il le devine et recule une fois de trop, en se prenant les pieds dans la corbeille d'Anaïs. Il pousse un cri d'otarie et s'étale sur le dos entre nos bureaux. J'avance encore, je l'enjambe, je le domine. Je le cloue au sol du regard. Tu vas me régler mon compte ? Pauvre clown. Si tu savais ce que je m'en fous de perdre ce poste, il me restera toujours tout ce que tu n'auras jamais. Les architectes prennent la fuite. C'était déjà comme ça pendant la construction de Rome. Dutrill se tortille comme un gros ver de terre.
Vous m'avez insulté !
Je note dans mon agenda d'avoir mauvaise conscience. Dans 2 mois, à 15 heures. Désolée, mais c'est le premier créneau disponible. Je suis tentée de lui en coller une. Il le sent et se protège le visage de son bras.
Vous pouvez me frapper,
fait-il d'une voix étouffée.
Ça ne changera rien. Et en plus, je porterai plainte.
Je ne vous ai pas touché et vous êtes tombé tout seul. Mes collègues se lèvent et acquiescent. Il y a de la rébellion dans l'air.
On est tous témoins, déclare Amour. Si vous faites renvoyer Laura, je démissionne.
D'autres approuvent. Je pointe un doigt sur Dutrill qui a perdu toute contenance à présent. Je ne vous taperai pas. Ce sont les gens comme vous qui sont heureux de se faire passer pour des victimes. Maintenant, sortez. Vous nous empêchez de faire notre travail. Ne revenez qu'à la nuit, comme les voleurs. Je recule. Il se relève sans aucune élégance au milieu de tout le service qui le fixe. Je lui montre la sortie.
En attendant de repenser les volumes, c'est par là.
Il a eu peur de mon geste. C'est alors que Lucie lui crie
« Tire-toi ! Tu es en danger ! Je l'ai déjà vu tuer une banane !»